Quel avenir pour les stations à l'aune du réchauffement climatique? Quel changement engager pour maintenir une montagne habitée? Le film Transition, un raid anthropologique dans le Kera, sera en tournée la semaine prochaine dans les Hautes-Alpes. Ce documentaire explore le Kera et son histoire, la façon dont le tourisme s'y est développé, et ce qui le relie aujourd'hui aux autres activités économiques. Nous nous sommes entretenus avec Michael Chambru, co-réalisateur du film, enseignant-chercheur en sciences sociales à l'Université Grenoble-Alpes et coordinateur scientifique du LabEx ITEM, le laboratoire d'excellence, innovation et transition territoriale en montagne.
Michael, peux-tu te présenter et nous dire sur quoi portent tes recherches ?
Alors moi, mes travaux de recherche, ils portent sur les enjeux autour de la transition des territoires de montagne. Alors la transition des territoires de montagne, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui par les différents acteurs qui sont en montagne. Et nous, en tant que chercheurs en sciences sociales, on s'intéresse un petit peu à essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation, derrière ce mot magique, entre guillemets. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement là-dedans, c'est tous les conflits qui se déploient autour, à travers cette notion de transition. Et pour le dire autrement, c'est comment aujourd'hui et dans les années à venir, on va pouvoir habiter, vivre et travailler en montagne face au changement climatique.
Quelle est l'origine de ce documentaire ?
L'origine de ce documentaire, on va dire, elle est double. Premièrement, du coup, c'est un documentaire que j'ai co-réalisé avec un collègue à moi, Yann Bornier, qui est en train de finir une thèse en géographie et qui est également guide de haute montagne. Et tous les deux, on a travaillé pendant plusieurs années dans le cadre de nos recherches sur le Kera, chacun de notre côté, sur ce même territoire, en explorant les enjeux de la transition. Et on avait tous les deux une envie que nos recherches ne restent pas cantonnées à l'université, auprès de nos collègues. Et on avait envie de pouvoir partager ces résultats. Du coup, on s'est dit, on va faire un film. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis le deuxième, c'était de le faire sous la forme du coup d'une itinérance, d'un raid à ski, avec les codes du film de montagne, du film d'aventure, dans lequel on va donner à voir des éléments pour réfléchir à l'avenir des territoires. Et ça, c'était aussi possible parce que mon collègue Yann est aussi guide d'haute montagne. Donc ça nous a permis d'allier les deux et de proposer un petit peu ce format de 32 minutes.
Le titre parle d'un raid anthropologique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
La transition, on peut l'aborder de plein de manières et de plein de façons différentes. Là, l'idée, comme toujours dans un film, c'est de raconter une histoire, de raconter un récit. Pour nous, l'objectif d'ailleurs était de susciter des débats et des discussions. Donc on a choisi un angle d'approche en recherche, on dirait, une problématique, une question qui nous animait. Et là, la question qu'on a choisi d'investiguer avec Yann, c'était les liens entre l'agriculture et le tourisme. Alors ce n'est pas une question au hasard si on l'a pris comme ça, parce que c'est quelque chose qui est transversal à nos travaux de recherche. Pourquoi ? Parce qu'en gros, il y a un lien historique entre le développement du tourisme, le maintien, le développement de l'agriculture, et c'est une question qui s'est posée il y a plusieurs décennies et qui se pose encore aujourd'hui. Et c'est un peu le fil qu'on a cherché à développer sur ce raid-là, en allant à la rencontre de différents acteurs, de différentes personnes qui vivent et qui travaillent dans le Kera et qui ont fait des choses, selon nous, intéressantes à dire. Et la dimension anthropologique, elle est là. C'est-à-dire qu'on a déjà d'abord conçu notre itinérance avec les gens qu'on voulait rencontrer et ensuite, on a composé l'itinéraire à ski par rapport à là où on voulait aller.
Quand est-ce que vous avez tourné le film ?
Le film, il a été tourné en février 2022. On n'avait pas prévu qu'en février, dans le Kera, il y allait avoir si peu de neige. Mais ce n'était pas un problème pour nous, parce que l'idée aussi à travers ce film, mais aussi à travers l'itinérance du coup qu'on proposait avec Yann, c'est aussi de montrer qu'il y avait un enjeu aujourd'hui dans les formes de tourisme à inventer pour le futur, à s'adapter à la nouvelle réalité qui va être la nouvelle réalité dans les décennies à venir en montagne, le fait que l'enneigement, l'illégalité de l'enneigement, ça va devenir la norme, et que du coup d'avoir un mois de février avec des conditions de neige dignes du mois de mai, va falloir s'y adapter.
C'est d'ailleurs le premier constat que fait Yann Bornier dans le documentaire. Est-ce qu'on peut dire que ce manque de neige est le point de départ de la transition en montagne ?
C'est sûr qu'aujourd'hui, là où c'est le point de départ, c'est qu'il y a une réalité qui s'impose au territoire de montagne, c'est le changement climatique. Et le débat, c'est pas d'être pour ou contre le changement climatique. Le changement climatique, il est là. Et toutes celles et ceux qui vivent aujourd'hui en montagne, ils l'éprouvent, ils le vivent, ils l'expérimentent à des degrés divers. Mais cette réalité, elle est déjà là. Et ce que cette réalité, elle impose, c'est notamment ce manque de neige. En tout cas, l'irrégularité de l'enneigement et des fluctuations de plus en plus importantes. Et quel effet ça a ? C'est que ça vient interroger, ça vient mettre en crise les modèles de développement territoriaux, les modèles de développement économique qui sont aujourd'hui basés, et ça c'est quelque chose un peu commun à tous les territoires de montagne, sur la pratique du ski alpin et le modèle de la station de ski alpin, qui globalement à peu près partout représente 80% de l'activité économique des territoires. La question, c'est comment on prépare cette bifurcation ? Comment on fait le choix d'anticiper cette bifurcation plutôt que de la subir, par exemple. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de montrer dans le documentaire à partir du cas du Kera.
Justement, le documentaire, il est court, 30 minutes, mais il évoque de nombreux sujets avec plusieurs acteurs. La diversité des discours qui se complètent, s'opposent, se nuancent. Quel message vous souhaitez faire passer? Quelle est cette transition dont vous parlez?
Nous, le message qu'on essaye de donner dans le film, c'est qu'il n'y a pas une solution magique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut ne pas avoir l'idée qu'il y ait une solution qui va remplacer du jour au lendemain, de façon uniforme, dans tous les territoires de montagne, le modèle de développement économique basé sur le ski alpin et sur le tourisme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir bricoler, il va falloir composer, il va falloir improviser des réponses adaptées aux réalités territoriales. Alors pas en partant de zéro, en partant de ce qui existe dans les marges, de toutes les initiatives. On a essayé d'en balayer un certain nombre dans le CARA. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, notamment en France, de raisonner de cette manière. Donc ça veut dire qu'il va falloir accepter, dans des espaces cohérents, à ne pas être d'accord, à accepter les désaccords, à accepter parfois même le conflit, pour imaginer à partir de ça des solutions nouvelles qui pourront venir remplacer ce qui existe du coup aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que ça implique ça? Et c'est un petit peu sur, sans vouloir teaser la fin du film, sur ce qu'on essaye d'amener, c'est de se dire que du coup, ça nécessite de faire des choix politiques. Et qui a dit choix politique dit ça nécessite du débat, de la discussion pour imaginer collectivement l'avenir.
Je voulais revenir sur une notion que tu as mentionnée dans une interview dans le magazine Les Passeurs. Tu utilises la notion de désinventer le tourisme. Est-ce que tu peux nous l'expliquer?
Oui, ben ça c'est une notion qui a été forgée par un collègue géographe, Philippe Bourdeau. Et derrière l'idée, cette notion de désinvention du tourisme, c'est de se dire, bon, on explique qu'il faut qu'il y ait une bifurcation. Donc on essaye de voir comment ça a fonctionné avant et comment ça pourrait fonctionner après. Donc aujourd'hui, la place que le tourisme occupe du coup dans le territoire de montagne, ça correspond à ce que nous, en recherche, on appelle un régime d'attractivité. Alors qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est l'idée qu'aujourd'hui, le tourisme n'est plus ce qu'il a pu être par le passé, une résultante, une nécessité pour maintenir l'activité, la vie sur le territoire, mais il est plutôt une fin en soi. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où il faut toujours attirer de plus en plus de touristes pour faire augmenter un chiffre d'affaires et que du coup on pense les choix politiques, les infrastructures, tout en fonction du tourisme. Et l'idée, c'est de se dire que ça, ce modèle-là, l'idée, c'est pas dire est-ce qu'il est bien ou mal. Ce qu'on observe, c'est qu'avec le changement climatique, il est plus écologiquement, socialement, politiquement tenable. Et l'idée derrière cette désinvention du tourisme, c'est comment on passe de ce régime d'attractivité à ce que nous, on appelle un régime d'habitabilité. Donc, comment on habite, on vit, on travaille sur ces territoires-là. Et comment, du coup, le tourisme n'est plus une fin en soi, mais est-ce ce qui permet l'habitabilité de l'année. Donc l'idée, c'est de renverser la place, la finalité du tourisme, qu'il soit estival ou hivernal, dans les territoires de montagne. Et pourquoi ça, c'est important? Parce que du coup, il ne faut pas non plus être naïf sur l'idée qu'en montagne, on pourrait vivre sans tourisme. C'est-à-dire qu'on pourrait totalement, d'un point de vue économique, se passer du coup du tourisme. Ça, c'est... Je dirais que c'est même pas une utopie, c'est en tout cas au vu nous des données qu'on a en tant que chercheur, ça paraît peu envisageable, y compris à moyen terme.
Et pourquoi avoir choisi le Kera? C'est un territoire qui n'est pas dans le tout tourisme, qui n'a pas un tourisme fondé exclusivement sur le ski alpin, c'est volontaire?
Pourquoi? C'est déjà parce qu'on voulait faire un film qui était lié à des travaux de recherche. Et du coup, Yann et moi, on a travaillé pendant 4 ans sur le Kera. Donc il y avait vraiment l'idée que ce film soit basé sur les résultats de nos travaux de recherche. Donc ça a été un premier élément. Le deuxième élément qui, pour nous, était aussi très intéressant sur le Kera, c'est que très souvent, le Kera est mis en avant comme étant la solution, le modèle à suivre. Dans les vallées comme en Maurienne ou en Tarentaise, d'autant plus en Tarentaise, c'est l'alter-modèle, ce serait la bonne solution, le Kera. Nous, ce qu'on veut aussi montrer avec ce film, c'est que certes, oui, il y a plein de choses qui se passent dans le Kera, il y a plein de dynamiques, mais d'un point de vue structurel, aujourd'hui, la situation, c'est à peu près la même. C'est-à-dire que dans le Kera, 80% de l'activité économique, globalement, elle est liée à l'activité touristique. Donc ça, c'est une réalité commune. Et là où le Kera est intéressant par rapport à ce que tu évoquais, c'est qu'aujourd'hui, le Kera, c'est à peu près 50%, si je raisonne en termes de nuitée, entre le tourisme estival et le tourisme hivernal. Et pourquoi c'est intéressant pour nous de questionner ça? C'est que très souvent, dans les stations qui sont, elles, basées sur ce qu'on appelle souvent le tout ski alpin, on se dit, ah ben la solution pour réduire la place du tourisme et pour aller vers la transition, c'est la diversification touristique. Et c'est notamment le développement du tourisme estival. Et ce que nous montre le Kera, c'est que ce n'est pas la solution magique, parce que ça ne résout pas tout un tas de problèmes qui sont plus globalement liés à la place hégémonique qu'occupe le tourisme dans ces territoires-là.
Le film tourne bien depuis sa réalisation, tu es souvent présent pour en parler. Quel accueil reçoit-il, autant auprès du grand public que des élus, que des acteurs du territoire, des acteurs économiques notamment ?
Déjà, ce que je veux peut-être préciser, c'est que du coup, le film, on l'a vraiment imaginé comme une introduction à un échange, à un débat. Et c'est pour ça qu'on organise un maximum de projections débat dans les territoires, c'est qu'on l'a vu comme une façon de lancer une discussion. Ça, c'était un peu notre objectif. Et déjà, le premier constat, c'est que ça marche très bien. Et ça, c'est plutôt chouette parce que c'est toujours un pari qu'on fait quand on se lance dans ce genre d'aventure. Et quand je dis que ça marche plutôt bien, c'est que déjà, il y a toujours des discussions qui sont complètement différentes en fonction de là où c'est organisé. Il y a toujours, alors avec des versions différentes, mais une pluralité de personnes qui viennent. Et ça permet vraiment de confronter des discours entre les agriculteurs, les moniteurs de ski, les gens qui travaillent dans les stations, les gens qui sont plus dans les initiatives sociales, les alternatives. Pour nous, ça, c'était un peu un des objectifs. Et, petite anecdote, mais quand on a fait la projection dans la Haute-Vallée de Lubaï, dans la discussion, je dis, la semaine prochaine, je vais à Arèche, dans le Beaufortin. Dans la discussion, il y a un peu un truc qui émerge. Je dis, ah bah oui, mais vous voyez, le Beaufortin, c'est eux, pour la transition, c'est beaucoup plus facile, notamment avec l'agriculture, parce qu'ils ont une zone AOC, ils produisent du Beaufort. C'est plus facile de se passer du ski et du tourisme. Donc, on a une discussion, je leur dis, bah, vous voyez, la réalité est un peu plus complexe, parce que la place du Beaufort a un effet inverse. La semaine d'après, je me retrouve à Arèche, et puis je raconte la petite anecdote de la Haute-Vallée de Lubaï. Et une partie des acteurs qui prennent parole disent le Beaufort, c'est aussi un problème parce que ça nous donne une mono-activité agricole hégémonique qui empêche, par exemple, du maraîchage ou d'autres activités, du coup, d'émerger. C'est intéressant. Et c'est vraiment ces débats et ces discussions post-film qui permettent de faire émerger la complexité, en fait. Parce que c'est ça aussi qui nous intéresse avec Yann à mettre en avant, c'est donner à voir aussi la complexité de ces questions-là qu'on ne peut pas résoudre en un claquement de doigts.
Merci, Michael. Nous te retrouvons la semaine prochaine dans les Hautes-Alpes, lors de la tournée du documentaire.
Eh bien, merci beaucoup, à bientôt, et au plaisir d'être dans les Hautes-Alpes.
Michael Chambru sera présent après chaque projection du film la semaine prochaine. La tournée est co-organisée par la RAM 05 et Fréquence Mistral. La première séance sera lundi 11 mars à 18h30 à la salle des fêtes de Névache. Elle sera suivie d'un échange avec Michael. Le mardi 12 mars, rendez-vous à 18h30 à l'Eden Studio à Briançon. Un plateau radio sera animé et enregistré par Fréquence Mistral. Mercredi 13 mars à 18h, le documentaire passera au cinéma Le Roc à Embrun avec un plateau radio animé et radiodiffusé en direct par RAM 05. Enfin, la tournée se terminera le jeudi 14 mars au ciné Ubaï à Barcelonnette, suivi d'un échange avec Michael Chambru.